Mesdames et messieurs les parlementaires et élus locaux, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Je voudrais tout particulièrement souligner la présence parmi nous de nombreux présidents et représentants d'autorités de régulation étrangères, notamment européennes, une douzaine. Ce colloque suscite un tel intérêt que, bien malgré elle, l'ARCEP a dû procéder à une régulation ô combien plus complexe que celle des communications électroniques. Je veux parler de la régulation des inscriptions. Nous espérons en tout cas avoir agi en toute neutralité, de façon non discriminatoire et aussi transparente que possible. Quelques mots sur la préparation de ce colloque. Au cours de l'été 2009, et avant que la FCC ne publie son projet de ligne directrice, nous avons pressenti à l'ARCEP l'importance de la question de la neutralité des réseaux. Nous avons donc décidé de mieux appréhender la portée actuelle de ce qui constitue le mythe fondateur de l'Internet. L'idée d'organiser un large débat public s'est alors imposée comme une évidence. Dans un premier temps, à l'automne 2009, nous avons mené une phase de réflexion interne afin d'identifier les enjeux et les acteurs du sujet. Dans un deuxième temps, depuis décembre, nous avons rencontré un grand nombre de ces acteurs lors d'auditions effectuées par les services, puis par le Collège de l'Autorité. Le colloque d'aujourd'hui est un moment clé après ce travail de réflexion et d'audition et avant une large consultation sur la base d'orientation que nous rendrons publique en mai. Pourquoi ce colloque et quels en sont les enjeux ? Nous sommes convaincus que sous l'apparence d'une question très technique ou à l'inverse très théorique, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est un des plus fondamentaux que notre économie et notre société aient à traiter au cours des prochaines années, au niveau de chaque pays comme au niveau mondial. Il ne s'agit évidemment pas de verser dans la dangereuse illusion d'un meilleur des mondes numérique qui tournerait le dos à l'humanisme, fondement de notre modèle démocratique. Toutefois, il existe désormais un large consensus pour affirmer que l'économie et la société de demain seront très largement structurées autour d'un écosystème numérique, à la fois du côté de l'offre de technologies, de services ou de contenus, mais aussi de la demande ou encore des usages individuels ou collectifs. Les caractéristiques actuelles et prévisibles à moyen terme de l'économie numérique sont impressionnantes. En 2009, le secteur des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle donc les TIC, a généré un chiffre d'affaires de plus de 2700 milliards d'euros, soit 6,5% du PIB mondial. On retrouve à peu près cette proportion en France, avec un chiffre d'affaires d'environ 120 milliards d'euros. Ce secteur représente par ailleurs environ 3% de la croissance et 3% des emplois français, cette part étant en augmentation constante. S'il est difficile de délimiter la part spécifique de l'Internet dans ces résultats, on constate toutefois que des pans entiers de l'économie basculent progressivement dans le numérique, notamment, mais pas seulement, dans le e-commerce, en raison du e-commerce. Il n'est pas déraisonnable de penser que le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui représente le support potentiel d'une nouvelle forme d'organisation économique que certains ont déjà dénommée économie du quaternaire, représentera près de 20% de l'économie mondiale dans une dizaine d'années. Si ce futur immédiat devient réalité, cela signifie que le bon fonctionnement des réseaux de communication électronique et de l'Internet va constituer une des questions clés de l'avenir de notre planète. Une crise de ces réseaux hypothéquerait en effet l'ensemble des activités et conduirait à un dérèglement général de l'économie et de la société. C'est pourquoi beaucoup estiment que l'Internet, colonne vertébrale de notre économie et de notre société future, constitue un bien collectif stratégique et doit fonctionner de façon optimale et au bénéfice de tous. Dans ces conditions, la puissance publique ne peut évidemment s'en désintéresser et doit se préoccuper de sa pérennité. On pourrait bien sûr adopter sur ce sujet une posture hypocrite, évitant de traiter la question, en considérant que globalement tout va bien à quelques rares exceptions près, comme le faisaient certains économistes ou philosophes du début du XIXe siècle, estimant que l'industrie, les mines ou les chemins de fer étaient des questions d'intérêt purement privé. On ne peut évidemment en rester à une telle posture naïve, ou plus souvent faussement naïve, mais sûrement inconséquente. D'autant que de nombreux faits sont là pour montrer que des difficultés apparaissent de façon croissante et soulèvent des interrogations sur les dérives possibles en l'absence d'un cadre minimal concernant l'Internet. Par exemple, l'explosion de la demande de services data sur les réseaux mobiles conduit parfois à une saturation de ces derniers aux heures de pointe, ce qui peut inciter les opérateurs à brider fortement les débits disponibles pour les utilisateurs, sans pour autant fournir, le plus souvent, toutes les informations ou justifications à ce sujet. Plus généralement, les offres d'accès aux réseaux mobiles ne permettent pas toujours de satisfaire la demande émanant des utilisateurs de façon identique à ceux qu'ils obtiennent sur les réseaux fixes. Ainsi, les utilisateurs peuvent se voir refuser l'accès à certains services, voie sur IP, pair à pair, malgré l'achat de forfaits intitulés « Internet illimité ». Dans ce contexte, deux pratiques extrêmes doivent sans doute être évitées. La première est une absence totale de gestion de trafic de la part des opérateurs. Cette absence totale de gestion pourrait conduire en effet à une dégradation de la qualité de service sur les réseaux, en raison de la capture potentielle du débit par une ou plusieurs applications au détriment des autres. Cela pourrait même entraîner des ruptures de la disponibilité de certains services essentiels, tels que les appels d'urgence ou de sécurité. À l'inverse, une liberté totale de gestion de trafic accordée aux opérateurs comporterait le risque que des pratiques discriminatoires ou anticoncurrentielles se développent. Une telle liberté absolue pourrait par ailleurs conduire à des blocages ou bridages arbitraires de certains usages ou applications, constituant des atteintes à l'universalité de l'Internet. Enfin, des débats, souvent extrêmement vifs, se sont développés sur le principe ou sur les modalités du contrôle de certains contenus véhiculés sur l'Internet. C'est dans ce contexte que nous devons nous demander quelles sont ou doivent être les bonnes pratiques. Mais avant d'ouvrir le débat sur ces questions, il me semble nécessaire de souligner quelques spécificités du secteur des communications électroniques et de l'Internet qui doivent assurément être prises en compte pour définir ces bonnes pratiques. Par rapport à un marché ou à un objet économique ordinaire, l'Internet comporte, nous semble-t-il, quatre spécificités très fortes. En premier lieu, il constitue un creuset d'innovations foisonnantes et permanentes, où les utilisateurs sont à la fois ceux qui produisent les services, les contenus et les applications disponibles sur ces réseaux et ceux qui les consomment, beaucoup d'utilisateurs étant d'ailleurs à la fois producteurs et consommateurs. Deuxième spécificité, il faut rappeler que le marché des communications électroniques est biface, comme dit notre ami Nicolas Curien. Cela signifie que les deux types d'activités, production et consommation de services, contenu et application exercent l'un sur l'autre de forts effets croisés positifs. Les producteurs bénéficient bien évidemment d'un accroissement du nombre des consommateurs et réciproquement, les consommateurs valorisent grandement un accroissement du nombre des producteurs. En troisième lieu, troisième spécificité, une bonne partie de ce qui circule sur l'Internet n'a pas de but lucratif et se compose d'échanges de biens numériques très peu coûteux à produire pour chacun et procurant une grande utilité à tous. On peut citer l'exemple des forums où les consommateurs les plus avertis font profiter le plus grand nombre de leur expérience. Ainsi, l'Internet est un vecteur d'échange fondamental et remplit en quelque sorte une mission d'intérêt général. Enfin, il convient de distinguer au sein de l'Internet deux parties ou couches superposées. D'une part, la fonction de transport, assuré par un ensemble de réseaux de communication électronique interagissant à l'aide du protocole IP, ce qu'on peut appeler le net, proprement dit. D'autre part, les éléments transportés, constitués d'un ensemble foisonnant et dynamique de contenus, services, applications et usages accessibles via le net, par exemple le web, le courrier électronique, les échanges de fichiers, etc. Cette complexité est en outre augmentée par le fait que ces niveaux s'interpénètrent de manière croissante, ou à tout le moins, les acteurs traditionnels d'une couche développent des activités sur l'autre par des processus de diversification. Compte tenu du cumul de ces spécificités, en particulier de la polyvalence des acteurs et de la multiplicité des usages des réseaux, se pose à un degré rarement atteint la question de la bonne cohabitation de tous les éléments de cet ensemble. Jamais le mot « cybernétique » créé par Ampère en 1834 n'a paru plus adapté pour décrire le mode de gouvernance qui reste à définir de ce système d'une complexité et d'une richesse exceptionnelle. Ces éléments de contexte et ces enjeux de l'Internet étant précisés, nous pouvons maintenant mieux définir la façon dont il vous est proposé de traiter le sujet de la neutralité des réseaux à l'occasion de ce colloque. Pour résumer, il ressort des auditions et des travaux que nous avons menés depuis l'automne que, selon les acteurs de cet écosystème Internet, trois objectifs doivent être concomitamment visés. D'abord, permettre le développement pérenne à long terme des réseaux, c'est-à-dire faciliter l'innovation et le développement des modèles techniques et économiques les plus adaptés. Deuxièmement, assurer à tout moment le bon fonctionnement des réseaux de communication électronique, c'est-à-dire garantir une bonne qualité de service. Troisièmement, garantir à l'ensemble des utilisateurs un accès à l'ensemble des réseaux et à l'ensemble des contenus, services et applications véhiculés sur ces réseaux, en provenance soit d'autres utilisateurs, soit de fournisseurs de services, de façon transparente et non discriminatoire. C'est ce dernier objectif qui correspond à l'acception la plus courante du principe de neutralité de l'Internet, qui, pour de nombreuses parties prenantes au débat, doit servir de guide pour définir les conditions d'une bonne gouvernance de l'Internet afin d'éviter les effets discriminatoires, anticoncurrentiels ou indûment restrictifs. Ainsi, ce principe de neutralité de l'Internet, au-delà donc d'être le mythe fondateur de l'Internet, est une condition essentielle du bon fonctionnement et du développement de l'Internet d'aujourd'hui et de demain. Pourtant, il n'est pas expressément mentionné dans la législation française ou européenne. En effet, l'Internet est aujourd'hui régi par des règles plus générales applicables, par exemple, aux communications électroniques, aux libertés individuelles, au commerce, à la concurrence ou à la consommation. Aux États-Unis, la FCC s'est saisie de la question dès 2005 en proposant des principes constitutifs d'une bonne autorégulation sous forme de plusieurs droits pour les consommateurs. Une approche plus volontariste s'est manifestée dans les lignes directrices mises en consultation publique en novembre 2009. L'autorégulation et les droits des consommateurs versus ligne directrice de 2005, y laissent place désormais à des obligations pesant sur les fournisseurs d'accès à Internet. On sait que la Cour d'appel fédérale de Washington, D.C. a jugé la semaine dernière que la FCC ne pouvait légalement condamner Comcast sur la base des principes édictés en 2005. Cette décision alimente le débat sur les fondements juridiques d'une régulation faite en application du principe de neutralité. En Europe, la récente révision du cadre communautaire a été l'occasion pour toutes les parties prenantes d'évaluer les besoins et les outils appropriés sur ce sujet. Le paquet télécom affirme de façon certes prudente l'objectif primordial de l'accès au contenu, définit des exigences précises en termes de transparence vis-à-vis de l'utilisateur final et devrait conduire, après transposition, à doter les régulateurs nationaux, d'une part, d'un pouvoir de fixation d'une qualité de service minimale sur l'Internet, encadré par la Commission, d'autre part, d'une compétence étendue en matière de règlement de différends, notamment entre opérateurs de communication électronique et fournisseurs de contenus et de services. Nelly Kroes, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la stratégie numérique, évoquera ces questions et sa vision du sujet au début de notre après-midi. En France, les pouvoirs publics ont souhaité s'interroger dès à présent sur ces questions. Outre les travaux de l'ARCEP, la secrétaire d'État à la prospective au développement de l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui interviendra en fin de matinée, a engagé des réflexions au nom du gouvernement avec le concours des différentes administrations concernées et a lancé vendredi dernier, une consultation publique en vue de remettre un rapport au Parlement sur ce sujet à la fin du mois de juin 2000. Notre colloque d'aujourd'hui s'inscrit donc pleinement dans ce contexte de croisée des chemins et doit fournir l'occasion à toutes les parties prenantes d'exprimer leur point de vue sur un certain nombre de grandes questions. Sans viser à l'exhaustivité, j'en citerai cinq. Premièrement, comment garantir à l'ensemble des utilisateurs un accès transparent et non discriminatoire à l'ensemble des contenus et applications licites sur les réseaux de communication électronique en général et sur l'Internet en particulier? Comment ces principes de non-discrimination et de transparence doivent-ils être définis? Deuxième question, économiquement, comment permettre et financer le développement pérenne des réseaux face à la croissance d'usages de plus en plus consommateurs en bande passante? Troisième question, quelles sont les garanties et différenciations possibles en termes de qualité de service? Comment concilier le fait d'assurer une qualité de service satisfaisante pour l'ensemble des usages et la nécessité pour certaines applications de bénéficier d'une qualité de service supérieure sous forme de services gérés? Quatrième question, quelles sont les pratiques acceptables de gestion de trafic par les opérateurs de réseau et dans quelles conditions peuvent-elles être mises en œuvre? Cinquième question, quelles formes d'intervention publique ou semi-publique sont nécessaires et acceptables au niveau national et supranational afin d'assurer une bonne gouvernance de l'Internet? Ces questions seront abordées au fil des quatre tables rondes de notre colloque. Dans un premier temps, la table ronde animée par Henri Verdier, membre du comité de prospective de l'ARCEP, permettra, à travers un état des lieux et une mise en perspective du contexte français, européen et américain, de poser clairement les problématiques liées au principe de neutralité des réseaux, notamment les enjeux que je viens d'évoquer. La deuxième table ronde, centrée sur les relations entre opérateurs de réseaux, hébergeurs et éditeurs de contenu, sera animée par Patrick Rode, membre de l'ARCEP, et couvrira les questions de gestion de trafic, de tarification et de partage de la valeur. Dans la troisième table ronde, animée par Joël Toledano, membre de l'ARCEP, l'accent sera mis sur les modalités d'accès au contenu et aux services et sur la protection des droits des consommateurs. La quatrième et dernière table ronde, animée par Marie-Dominique Hagelstein, présidente de section au Conseil d'État, permettra, au vu des débats de cette journée, de préciser les besoins de régulation et en particulier de régulation publique sur l'Internet dans un environnement convergent à la fois entre les mondes du fixe et du mobile, des contenants et des contenus, des médias et du web. Je pense que nous sommes tous impatients d'échanger nos idées sur ces sujets passionnants et je passe sans plus tarder la parole à Henri Verdier et à cette table ronde pour ouvrir la discussion précisément de cette première table ronde. Je me permets simplement de suggérer aux participants qui seront dans ces tables rondes d'être incisifs mais brefs pour permettre un débat entre eux d'abord et un débat avec la salle afin que notre travail reste vivant et dynamique. Bonne matinée, bon après-midi. Merci.